Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion de l'équipe Podcasting.
Aujourd'hui dans Podcasting, partons dans le Lot-et-Garonne. Là-bas se trouve la maison forte de Montbalin. C'est le titre d'un reportage du média Champ Libre. Vous en êtes l'autrice, Sonia Moumen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de Champ Libre et vous nous emmenez donc à la découverte de la maison forte de Montbalin. Je l'ai dit, c'est dans le Lot-et-Garonne. Soyons un peu plus précises, où se trouve cette maison forte?
Alors cette maison forte, elle se trouve dans un tout petit village de 400 habitants, entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, dans une région qui est agricole, vallonnée, assez jolie.
Si l'on décrit un peu ce lieu, avant de parler de sa fonction, c'est un ancien château, c'est ça?
C'est un ancien château fort, très beau, dont on peut lire les signes du temps quand même. Il a été pas mal abîmé, mais il est en restauration. C'est un site assez exceptionnel, avec une vue dominante sur la vallée, assez exceptionnelle.
Comment et quand ce lieu est-il finalement devenu un tiers-lieu?
Alors ce lieu, c'est un tiers-lieu depuis 2017, au moment où une équipe plutôt parisienne a jeté son dévolu sur ce château fort, sur ce village, pour en créer un lieu de transition sous forme coopérative. Donc c'est plusieurs personnes qui ensemble ont fait l'acquisition de ce lieu, ont développé le projet.
Si l'on résume, la maison forte de Montbalin, c'est un lieu d'exploration, c'est ça?
Alors, ils se définissent eux-mêmes comme une fabrique coopérative des transitions, c'est-à-dire un lieu où on expérimente toutes sortes de choses qui relèvent de la pensée, de l'écologie, de l'art, de l'inventivité, des relations sociales. C'est vraiment un lieu dans lequel on réfléchit beaucoup et on fait aussi.
Des projets très divers qui prennent vie dans ce lieu, on le voit dans le reportage, avec des personnes très différentes. Vous avez rencontré aussi bien des artistes que des ingénieurs, par exemple.
Oui, c'est ce qui fait l'intérêt de ce projet, c'est de mêler les profils et les rencontres. On a pu notamment rencontrer deux jeunes ingénieurs, Marion et Robin, qui sont en résidence quasi permanente à la maison forte. Ils ont conçu une tiny house, c'est-à-dire une petite maison de moins de 20 mètres carrés, totalement écologique, puisqu'ils ont un souci vraiment environnemental fort. Dans l'atelier, ils étaient en train de concevoir aussi une douche en autonomie, c'est-à-dire 7 litres de consommation d'eau, là où une douche normale consomme 70 à 80 litres d'eau. Donc c'est vraiment un profil très très ingénieur, mais ingénieur connecté à l'environnement. Et puis au même moment, on avait aussi des artistes qui créaient.
L'artisanat tient une grande place dans ce lieu, le fait de faire. Je pense notamment à cet immense atelier qu'il faut décrire, vous le montrez dans votre reportage.
Ça, c'est assez rare dans des lieux qui réfléchissent d'avoir cette possibilité de mettre en œuvre. Et ça fait vraiment partie de leur projet. C'est-à-dire, quand on a une idée, ben allons-y, mettons-la en œuvre, concevons-la concrètement. Et cet atelier, il est très grand, avec des inventions un peu à la professeure Tournesol, quand même, qui sont en cours. Je pense notamment à la conception d'un vélo qui permet de générer sa propre électricité. Donc, un système un peu archaïque, mais qui, s'il fonctionne, peut devenir une vraie invention. Je pense aussi à cette douche que nous évoquions tout à l'heure. Donc, beaucoup de projets, d'intentions, qui deviennent réalité.
Et pour faire tout ça, ils ont tous les outils à disposition?
Oui, c'est un vrai atelier équipé aussi bien pour le bois que pour le métal. Tout est sur place et il est utilisé par les coopérateurs ou les personnes en résidence.
Avoir l'impression que ce type de lieu, ces tiers-lieux, portent parfois des missions un petit peu abstraites, un peu jus de crâne, comme le dit le cofondateur dans le reportage. À la Maison Forte, il y a vraiment une dimension concrète?
Oui, il y a une dimension concrète très forte. On évoquait l'atelier, on aurait pu évoquer aussi le jardin de la Mico, qui est un jardin en permaculture géré par Sébastien, qui lui trouve intéressant de faire coopérer ensemble les végétaux, comme on coopère humainement à la Maison Forte.
Il y a aussi des choses très concrètes, très terre-à-terre, comme cet espace guinguette que vous filmez également.
Oui, alors au beau jour, l'été, la Maison Forte s'ouvre très largement à son environnement immédiat. Je pense que c'est important quand on est un lieu aussi pointu, où il y a des gens qui réfléchissent, qui font, mais qui peuvent parfois être perçus comme un peu des étrangers. C'est important d'ouvrir ses portes. Et ça, ils l'ont très très bien réussi. Donc tous les étés, le vendredi soir, ils organisent des soirées guinguettes très très conviviales. On y mange, on y boit, on y écoute de la musique, on y danse. C'est une manière aussi d'ancrer ce lieu dans le territoire, mais au-delà de ça, de rappeler que ça a été un lieu de vie aussi et que c'est toujours un lieu de vie.
C'est plutôt monté par une équipe parisienne en milieu très rural, et c'est vrai qu'on peut, il y a parfois des projets similaires où il y a un petit peu des frictions entre les locaux et puis ceux qui arrivent, c'est ça?
Oui, ben on est toujours l'étranger, quand on arrive quelque part, on reste toujours un étranger. Je pense que leur pari est plutôt réussi, notamment à travers ces guinguettes. Et puis, plus globalement, c'est un tiers-lieu extrêmement atypique, qui est aussi une carte de visite pour ce territoire extrêmement rural. Je crois que c'est important. La Maison Forte aujourd'hui est reconnue à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle nationale, comme particulièrement innovant.
Alors, ce n'est pas le seul reportage sur un tiers-lieu que vous ayez fait avec votre média Champ Libre. Pourquoi est-ce que vous allez souvent à la recherche de ces tiers-lieux pour des reportages?
Ce qu'on peut dire déjà, c'est que nous, on part en reportage pour Champ Libre depuis maintenant 5 ans, et qu'il y a 5 ans, la question des tiers-lieux était assez souterraine. On en était au tout début de ce phénomène. Un tiers-lieu, c'est un lieu un peu alternatif qui n'est pas vraiment un bureau, qui n'est pas vraiment une entreprise, qui n'est pas vraiment un lieu de résidence, qui n'est pas vraiment un théâtre. Ça peut être tout ça à la fois. C'est un lieu de convivialité, mais aussi de travail. Et de plus en plus de tiers-lieux ont émergé avec des modèles très, très hybrides. Et il se trouve que ces modèles hybrides correspondent bien aux besoins des territoires ruraux. Donc, on en a vu exploser, naître un peu partout, chacun avec ses spécificités. Certains sont très économie ou artisanat, d'autres un peu plus culturel et artistique. Donc c'est évidemment cela qui nous intéresse pour Champ Libre. Mais il en fleurit beaucoup, notamment en région Nouvelle-Aquitaine. Et il nous semblait très important de montrer cette nouvelle dynamique.
Merci Sonia Moumen. Votre reportage s'appelle, je le rappelle, La Maison Forte de Montbalin. Et il est à retrouver sur le site internet du Média Champ Libre.
Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de Podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garay-Coetchea, Mathilde Leloeil et Marion Ruot. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.